Nous sommes en compagnie de Denis Avagno et nous parlons des étoiles massives et en particulier de leur formation, de leur naissance. Quand on regarde dans l'univers d'ailleurs, dans la Voie lactée tout d'abord, la distribution des populations d'étoiles, on est assez surpris de voir que finalement tout ça est assez cohérent. Il y a peu de grosses. Il y a peu de très petites, il y a pas mal de soleil, il y a eu un petit peu moins massif que le soleil. On a l'impression qu'entre guillemets, il y a une certaine logique, une certaine programmation avant la naissance de la masse des étoiles. Comment le comprenez-vous ?
Alors, c'est un domaine de recherche, ce qui régit la masse des étoiles, il y a une fonction qui s'appelle la fonction de masse initiale, qui est en fait la distribution de la masse des étoiles en fonction du nombre, ou la distribution du nombre en fonction de leur masse. Donc on a une fonction mathématique, donc cette fonction de masse initiale, qui est censée représenter, c'est une fonction de puissance, qui est censée représenter le nombre d'étoiles par intervalle de masse. Donc ça a été établi par un astrophysicien qui s'appelle Salpeter. C'est une loi qui semble être relativement universelle. Donc là, j'espère qu'on ne va pas m'arracher les yeux parce que c'est quand même un sujet qui est très, très débattu encore. Il y a des gens qui pensent que dans les galaxies extérieures, cette loi n'est pas forcément la même dans toutes les galaxies. Donc c'est un sujet très discuté, très débattu. Mais sur Herschel, justement, il y a un programme qui est conduit par Philippe André, qui est astrophysicien au CEA à Saclay, qui est d'essayer de comprendre justement l'origine de cette fonction de masse initiale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui régit au départ la distribution en masse des étoiles ? Donc, il y a eu des études qui ont été faites sur le matériau originel qui est utilisé pour la formation des étoiles, donc ces espèces de cœurs, de clumps de matière dans les nuages moléculaires. Et en fait, c'est une étude qui avait été conduite par Frédéric Mott il y a quelques années, je crois que c'était en 2003, qui avait regardé dans des nuages moléculaires la distribution en masse de ces clumps, et on semblait s'approcher un peu au niveau de la distribution de ce qui est observé ensuite pour les étoiles. Donc les gens avaient dit, mais finalement cette loi est déjà définie au stade embryonnaire. Donc ça pourrait être dit comme ça. Et c'est quelque chose qui avait fait grand bruit à l'époque aussi, qui avait été très discuté et très débattu. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir être très bien abordé aussi avec Herschel, parce que là, on va être capable justement de regarder ces cœurs très froids, des cœurs qui sont même pré-stellaires, c'est-à-dire dans lesquels, même avec Herschel, on ne détecte pas de source à l'intérieur. Donc ils sont vraiment de nature préstellaire, c'est-à-dire que ce sont les embryons des futures étoiles, mais il n'y a pas encore eu de formation stellaire en leur sein. Et donc on va être capable avec Herschel de les compter, ces cœurs, et de savoir comment mathématiquement ils se distribuent en masse.
C'est un processus efficace, le mode de formation d'étoiles
dans les galaxies. La formation stellaire n'est pas un processus très efficace. On est dans les régions où ça fonctionne très bien, je dirais, à des taux de conversion entre la matière que l'on a à l'origine et l'étoile qui sera formée de l'ordre de 10%. Donc c'est pas très très efficace comme mécanisme. Non.
Et on a en comparaison avec les galaxies primordiales des informations qui nous montrent que c'était plus efficace avant ou...
Alors en termes d'efficacité, je ne sais pas, mais en termes de nombre, c'est-à-dire de formation stellaire, justement, les premiers résultats Herschel montrent, pour la partie extragalactique et un peu cosmologique, puisqu'on va jusqu'à des décalages spectraux qui sont assez élevés, qu'il y a eu par le passé une espèce de sursaut de formation stellaire, donc qui est situé, si mes souvenirs sont exacts, entre vers Z égale 3 et 4 en termes de décalage spectral. Et donc, il semblerait que par le passé, les galaxies formaient plus d'étoiles. Alors, pas forcément de façon plus efficace, mais en tout cas, elles en formaient plus.
Je repensais à ce que vous nous disiez en début de cet entretien, l'efficacité, enfin la nécessité de s'intéresser aux étoiles massives, parce que finalement, sans elles, on ne serait pas là. Sans leur production d'éléments lourds, finalement, tout ce que nous connaissons, et en particulier nous-mêmes, finalement, tout ça n'existerait pas. Donc, c'est très important de comprendre comment ça a fonctionné.
Oui, c'est vraiment... C'est surtout... Bon, je pense que s'il n'y avait pas eu de problème théorique lié à la formation de ces étoiles, si on avait été capable de résoudre, de dire, bon, ben, finalement, elles se forment comme les étoiles peu massives, bon, elles auraient également éveillé l'intérêt, puisque ce sont des objets un peu extraordinaires. Mais peut-être pas à ce point. Je crois que ce qui vraiment attise beaucoup ou aiguise beaucoup l'appétit des chercheurs sur les étoiles massives, c'est cette notion de dire que ce sont vraiment des objets qui sont dominants pour l'évolution des galaxies et dont on ne comprend même pas la base, c'est-à-dire la formation.
On peut se représenter, je dirais presque comme curieux, à quoi ressemble une étoile de 8 masses solaires. Est-ce que ça ressemble au Soleil je dirais, à un diamètre apparent un peu plus important ou...
Oui, ce sont des objets. Je pense que là, ça sera un peu une mise à l'échelle. C'est-à-dire que ce sont des étoiles qui sont plus grosses en termes de rayons. Elles sont plus chaudes. Donc, c'est un peu une mise à l'échelle, mais ça serait, on pourrait dire, un gros Soleil, quoi, de gros, en termes de température, de rayons.
Avec pas suffisamment de temps, peut-être, pour quand même fabriquer des planètes autour.
Non, alors le problème de la formation planétaire suppose que l'on est capable de conserver un disque de matière autour de l'étoile. Et en fait, on en revient toujours au même problème pour les étoiles massives. Ce flux de rayonnement ultraviolet est très destructeur sur l'environnement. C'est-à-dire que bon, il bloque déjà l'accrétion, donc ça c'est un premier problème, mais il va avoir tendance à dissiper le disque. Donc on ne peut pas vraiment concevoir de formation planétaire autour d'une étoile massive. Il faut des environnements, je dirais, tranquilles. Donc le Soleil est un très bon environnement pour ça, ou les étoiles de type solaire. Mais on ne peut pas espérer voir de la formation planétaire.
Ça ne fabrique pas des planètes, mais ça met le feu.
Voilà, ça met clairement le feu.
et ça fabrique par conséquence des tas d'étoiles qui ont la taille suffisante et le temps nécessaire pour fabriquer des planètes.
La formation stellaire induite, je trouve que c'est une très belle... C'est une très belle notion, cette espèce d'entretien ou de régénérescence des étoiles massives, parce qu'elles ont souvent... alors, c'est vrai que même les personnes qui parlent de l'impact des étoiles massives sur leur environnement, l'impact peut être... je dirais que c'est un impact un peu... De deux types, c'est-à-dire qu'il peut être constructif, donc à savoir on va créer une nouvelle génération d'étoiles massives, mais il y a aussi des gens qui disent, et ce fait-là est étayé, que les étoiles massives ont aussi un impact destructif sur leur environnement. C'est-à-dire que parfois, en termes de supernova, etc., on va commencer quand même par un peu mettre la panique dans tout ce qui est autour. Bon, après, alors ce qui est bien aussi, c'est que par exemple dans l'explosion de supernova, bon, on a ces gros mouvements dynamique, cette grosse mise d'énergie dans le milieu environnant, mais ça se traduit quand même après par là aussi on peut créer une nouvelle génération d'étoiles, etc. Donc c'est pas dans l'immédiat, parce que dans l'immédiat le premier effet est complètement destructeur, mais ensuite les ondes de choc, justement la compression de matière dans les milieux environnants va quand même avoir un effet.
Donc votre champ d'investigation, c'est le cœur de la galaxie et peut-être les bras spiraux, là où il y a des mouvements finalement.
Oui, alors il y a un très beau programme sur Herschel qui est un programme de sondage du plan de notre galaxie. Donc c'est là où principalement se trouvent les étoiles, puisque c'est là où il y a le plus de matière. Et donc dans le plan de notre galaxie, on a la possibilité grâce à Herschel de regarder en imagerie, mais là de façon globale, donc de façon non biaisée. On n'est pas en train de sélectionner des régions. Donc il y a un peu les deux approches, c'est-à-dire on a voulu dans un premier temps dire voilà, on a quelques régions qu'on connaît bien, qui sont un peu des cas d'école dans lesquels on veut essayer de regarder ce problème-là, mais on veut aussi avoir une vision globale. Alors avoir une vision globale, ça nécessite cette fois de ne plus faire de biais observationnel, donc de ne plus faire de sélection, mais de dire on va regarder partout dans la galaxie. Et c'est ce que l'on fait avec ce très beau programme là, qui s'appelle AGAL. où on sonde de façon non biaisée carrément le plan de notre galaxie. On regarde en imagerie et ça a donné lieu à des images qui sont extraordinaires, de beauté. Oui, oui.
Nous sommes nous-mêmes, nous le Soleil et notre système, au centre d'une bulle qu'on appelle la ceinture de Gould, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes nés dans un système identique à celui que vous avez observé avec cette étoile très massive.
Alors, ce ne serait pas exactement la même chose, parce que la ceinture de Gould est constituée de différentes zones de formation d'étoiles qui, chacune, ont leur propre histoire. Donc, là, on n'est pas dans le cas, par exemple, de la formation qui a été directement induite par une région H2, en bordure d'une région H2, mais il se passe dans cette ceinture de Gould, effectivement, quelque chose de particulier, et c'est d'ailleurs, enfin, Philippe André est aussi responsable d'un très beau programme lié, justement, à l'observation de tous ces nuages dans la ceinture de Gould, de toutes ces régions de formation d'étoiles, qui sont des régions intéressantes parce qu'elles sont très proches. Voilà.
Alors, vous vous intéressez à la genèse des étoiles, et des étoiles massives hein, qui vivent peu de temps, mais vous-même n'avez peu de temps avec ce satellite parce qu'il est limité, si je puis dire, en réfrigérant. C'est un satellite infrarouge qui doit fonctionner pratiquement 3 ans et demi pour être totalement efficace. Quels sont les programmes en cours qui vous mobilisent aujourd'hui ? À quoi vous vous intéressez ?
Alors, on était très mobilisés sur tous les programmes qui ont trait à la formation stellaire dans notre galaxie. Donc, le programme, donc il y a un programme qui s'appelle OBIS, qui est dirigé par Frédéric Motte à Saclay, dans lequel nous avons des observations sur ces régions très particulières que l'on avait étudiées justement par avance, qui sont un peu des cas d'école que l'on voulait conserver. Et donc là, on a des observations donc en imagerie et en spectroscopie avec Herschel. Ensuite, ce programme s'appelle OBIS. Ensuite, il y a un gros programme aussi dans lequel on est impliqué de formation des cœurs moléculaires. Donc là, ce sont des cœurs qui sont, enfin, ce programme s'appelle cœur froid, enfin cold core en anglais, qui est dirigé par Mika Juvela et Isabelle Ristorcelli, qui là s'intéresse vraiment aux étapes qui sont les phases. Là, on parle même plus de phase précoce, on parle de phase génétrice presque, parce qu'on regarde vraiment ces cœurs denses presque là, à savoir comment eux-mêmes sont formés, ou comment se forment ces cœurs denses de la matière ambiante, en fait. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est encore très débattu, parce qu'on sait que les étoiles se forment dans des cœurs, mais comment ces cœurs se forment? Donc, on peut aller très loin comme ça. Et l'avantage, c'est que le satellite Planck, en particulier, dans le cas de ce programme sur les cœurs froids, est étroitement associé au satellite Herschel. Donc, l'idée, c'est de dire qu'avec Planck, il y a une résolution un peu moins bonne que celle d'Herschel, mais qui va sonder l'univers encore plus froid, puisqu'il regarde à des longueurs d'onde plus élevées, va permettre de détecter ces cœurs très froids. Et en fait, ensuite, avec Herschel, on va regarder ces cœurs très froids, essayer de savoir justement ce qui se passe.
Quand vous parlez de cœurs denses, on imagine que c'est peut-être pas si dense que ça, finalement.
Non, enfin, c'est pas dense à l'échelle. Pour nous, le milieu interstellaire est un grand vide.
Ouais.
Mais pour les densités qui existent dans le milieu interstellaire, oui, ce sont des zones très denses, oui.
C'est comment ces grumeaux, finalement, se fabriquent.
Voilà, on est en train d'essayer de comprendre. Et ça, je trouve que c'est l'un des beaux résultats sur Herschel, c'est d'avoir été capable, donc, dans des régions de formation stellaire, de voir toutes ces structures très filamentaires. On est dans un milieu, en particulier le plan de la galaxie, là, révélé par le programme IGAL. On est dans un milieu très filamentaire. Donc, on a des régions H2 qui impactent clairement sur leur environnement. On voit des accumulations de matière, on voit de jeunes objets qui sont formés, mais en dehors de ces régions-là, on voit vraiment un réseau de filaments.
Et qu'est-ce que ça signifie ?
Alors justement, on est très... Enfin, moi, j'ai l'impression que si on devait peut-être retenir un des premiers résultats d'Herschel, je crois que j'irais plutôt vers celui-ci, de dire la révélation de toutes ces grandes structures filamentaires qui font un peu penser, pour les gens qui font de la cosmologie, à ce qu'on appelle le cosmic web, c'est-à-dire la façon dont les galaxies se distribuent sur la toile cosmique, justement, avec ces grands filaments et puis ces condensations de matière. et bien là on est un peu, on observe un peu la même chose, donc de très très grands filaments qui sont très froids et des condensations dans ces filaments qui sont probablement les futurs, enfin qui sont pas probablement, qui sont sûrement des futurs sites de formation stellaire. Mais la grande question maintenant, c'est de dire, mais qu'est-ce qui physiquement, quel mécanisme physiquement forme ces filaments à partir de la matière qui, elle, n'est pas a priori organisée comme ça, et qui les maintient, qui maintient leur structure pour être capable d'aller jusqu'à la formation d'étoiles. Parce que on peut imaginer dans le milieu interstellaire des structures qui sont, enfin, qui vont avoir une durée de vie très courte, c'est-à-dire que vous créez quelque chose et vous le redétruisez, il n'y a pas de constance dans le, dans la vie de cette structure-là. Mais là, les filaments que l'on voit sont clairement des filaments qui ont été construits et qui perdurent. Donc là, tous les physiciens sont en train de pointer en ce moment vers la turbulence. Parce que,
bon, il n'y a pas que la gravité. Hein, parce que
il n'y a pas que la gravité. Il semblerait que la turbulence, puis donc ces variations de vitesse, de mouvement dans le milieu interstellaire, puissent jouer un très grand rôle dans la constitution de ces filaments, justement.
Oui, avec Planck et Herschel, finalement, c'est cette nouvelle image de l'univers qui s'impose, hein, celle de filaments, de très grandes structures dans lesquelles se fabriquent des étoiles en continu, mais cette vision macroscopique qui est intermédiaire entre l'étoile et puis les grandes structures. Le fait de voir froid, c'est assez drôle, hein, d'ailleurs, de parler de voir froid. Voir froid, ça veut dire voir quelque chose qui est à quelques degrés au-dessus du zéro absolu.
Alors, en fait, on étudie avec Herschel, typiquement. Donc, il y a la relation, il y a une relation physique qui peut être très simple, enfin, qui est très simple, qui permet de comprendre un peu pourquoi Herschel sonde l'univers froid. C'est que lorsqu'on est dans les longueurs d'onde, dans les grandes longueurs d'onde, donc dans l'infrarouge lointain typiquement, on a la relation lambda t égale 3000 en k micron. Donc cette relation-là signifie que le produit entre le pic d'émission d'un corps, enfin typiquement de la poussière, et sa température doit être égal à une constante qui doit valoir 3000 en micron k. Donc si on regarde des objets qui ont un pic d'émission par exemple à 100 microns, ben, ça veut dire que leur température est de 30 K. Et voilà, on peut faire cette relation. Donc ça, c'est une relation qui est mathématiquement très simple et qui permet un peu de comprendre pourquoi, quand on garde à très grande longueur d'onde, ben, puisque le produit lambda T doit être constant, si vous allez à grande longueur d'onde, ben, vous allez avoir des choses très froides. Vous allez sonder un univers très froid.
Alors, on sent, hein, à travers ce que vous dites, que passé les 3 ans et demi de résultats, enfin d'observation et puis de résultats, ça mettra du temps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de données d'Herschel et de Planck aussi d'ailleurs, il va y avoir besoin d'instruments supplémentaires. Alors d'abord, vous nous le décriviez, c'est essayer de sonder au cœur de ces nuages le comportement d'objets type étoiles supermassives, et là on va avoir besoin d'instruments qui existent ou qu'il va falloir concevoir.
Alors on est déjà, bon, je pense que c'est une quête sans fin, une quête qui petit à petit nous conduit toujours vers quelque chose de mieux, puisque l'idée c'est de progresser. Mais c'est vrai qu'Herschel, lorsque Herschel a été construit, on savait déjà qu'Herschel ne permettrait pas de répondre à certaines questions. Donc on savait qu'il y aurait une amélioration, mais on savait qu'on ne toucherait pas forcément au but. Et en particulier pour les gens qui s'intéressent à la formation des étoiles massives, on savait qu'on n'aurait pas la résolution suffisante pour aller sonder au cœur de ces régions que l'on pourrait détecter avec Herschel. Alors Herschel est un instrument formidable parce qu'il va nous permettre de savoir où ces objets se trouvent dans la galaxie, mais on est tous déjà en train de penser à ce qu'ALMA, donc l'interféromètre millimétrique dans le désert chilien qui est en construction, ce qu'ALMA va nous permettre de faire, c'est-à-dire que on attend et on souhaite la résolution spatiale d'ALMA qui va être de l'ordre de la milliseconde d'arc quand on aura toutes les antennes pour être capable vraiment d'aller voir au cœur de ces étoiles et de comprendre ce qui s'y passe en termes dynamiques, en termes chimiques aussi. Et donc on est déjà, puisqu'il y a une phase, en ce qui concerne ALMA, il va y avoir ce qu'on appelle la phase early science, c'est-à-dire le tout début avec quelques antennes, donc on va avoir 13 antennes je crois au départ, qui va commencer dès la fin de cette année. Donc on est déjà dans les starting blocks, on n'a même pas fini Herschel, on commence à recevoir des résultats d'Herschel et on est déjà dans les starting blocks pour être prêt à répondre à la... Il va y avoir une compétition internationale terrible sur ALMA. mais de dire, ben voilà, on a ces sources et maintenant on veut savoir ce qui se passe en leur cœur.
C'est une période excitante pour vous?
C'est très excitant, mais on a l'impression de vivre comme une étoile massive, c'est-à-dire de brûler trop vite et de... J'espère que j'exploserai pas en vol, mais j'ai peur que ça finisse comme ça. C'est extrêmement dense, extrêmement riche, peut-être parfois trop riche, oui. Ouais.
Merci Annie Zavagno, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.